La chronique de Philippe Jorgensen.
La chronique d'aujourd'hui traitera du grand règlement de compte entre Ricardo et Keynes. Ricardo contre Keynes. Il peut sembler hors de propos, pourtant, à l'heure où chacun se préoccupe de la crise et du futur immédiat, d'invoquer les grands ancêtres de la théorie économique. Pourtant, c'est aujourd'hui plus que jamais que la conjoncture offre l'occasion de les départager une bonne fois pour toutes. Car leurs théories sont aujourd'hui soumises aux plus sévères des tests en vraie grandeur. Résumons d'abord ces théories à grands traits. Pour Keynes, la préférence pour la liquidité et l'excès d'épargne, se conjuguant à une forte aversion au risque, font tendre l'économie vers un équilibre de sous-emploi. La puissance publique peut et doit donc compenser ces tendances déflationnistes en injectant des liquidités et en soutenant la demande, tant privée à travers le pouvoir d'achat que publique par l'investissement, qui, grâce à son effet multiplicateur, accroît l'activité. Pour les libéraux de l'école de Ricardo, c'est là une illusion du fait de ce que, dans l'inimitable jargon des économistes, on appelle le principe d'équivalence néo-ricardienne. Anticipant les mesures de rigueur qui devront suivre pour rééquilibrer les comptes publics, les acteurs économiques restreignent leurs dépenses, retardant d'autant la reprise souhaitée. Quant au laxisme monétaire, il ne ferait que susciter l'inflation et alimenterait de nouvelles bulles, source des crises futures. Qui a tort? Qui a raison? Ce serait bien sûr trop simple si la vérité était tout entière d'un seul côté. Les Keynésiens, qu'on assimile souvent à la gauche, mais les ministres de droite se montrent tout aussi préoccupés de ne pas affaiblir la demande, d'où par exemple leur refus d'une hausse de la TVA, seul moyen efficace et rapide de dégager un fort supplément de recettes publiques. Les Keynésiens donc ont raison et tort à la fois. Des économistes de renom, prix Nobel tous les deux, comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, soulignent que nous sommes plus menacés de déflation que d'inflation. Il faudrait donc soutenir la demande et continuer à alimenter le système bancaire en liquidité pour éviter un étranglement du crédit. Ils considèrent qu'il ne faut pas trop se hâter de corriger les déficits publics qui restent nécessaires pour suppléer une demande anémiée et éviter le retour d'une crise comme celle de 1929. Il ne serait pas loin de penser que le retour à un peu d'inflation serait une bonne chose, pour organiser en douceur ce que John Maynard Keynes a appelé d'un mot cynique mais frappant « l'euthanasie des rentiers ». Leur approche est soutenue non seulement par bon nombre d'économistes français, mais aussi par les experts du FMI. Ces grands mandarins de la finance internationale plaident pour que les pays qui le peuvent reportent les restrictions budgétaires à 2011. Ils ont même osé, sous la plume de leur chief economist, M. Blanchard, un Français, évoquer un objectif d'inflation temporairement porté à 4% plutôt qu'à 2%, l'anathème pour la Banque centrale européenne. Ces arguments sont forts, mais d'autres vont en sens inverse. D'abord, une telle politique est difficile à faire prévaloir en Europe. L'Allemagne, qui a vécu l'euthanasie des rentiers plus douloureusement sans doute qu'aucune autre nation, y compris la nôtre, où pourtant les rentiers ont aussi été ruinés par l'inflation, mais plus lentement, n'en veut à aucun prix. Or, l'opinion de la première puissance économique de notre continent pèse lourd, qu'on le veuille ou non, d'autant qu'elle est suivie par d'autres, comme les Pays-Bas, l'Autriche et certains pays nordiques. En tout cas, les marchés lui donnent un rôle de référence, puisque par exemple les spreads, les écarts de taux d'intérêt sur la dette publique, comme le coût des CDS, qui sont des polices d'assurance contre une défaillance de l'émetteur, sont tous calculés par rapport au taux allemand. Ensuite, une politique keynésienne prolongée trop longtemps ne serait plus soutenable. Au-delà d'un certain point, les marchés se mettent à surréagir aux excès de déficit public et d'endettement. Et il faut alors opérer dans la douleur par des plans d'austérité drastiques qui briseront à coup sûr et durablement la croissance. Sans aller jusqu'aux extrêmes de la Grèce et de ses 14% de déficit public par rapport au PIB, ni de l'Espagne ni du Portugal, dont les perspectives de croissance sont très menacées, on est bien obligé de constater que des pressions se font sentir, même pour la France, qui reste un emprunteur solide et fiable. La prime de risque des emprunts français par rapport au taux des bonds allemands, qui n'était que de quelques centimes il y a peu, a nettement monté, dépassant un demi-point de taux d'intérêt mi-juin, avant de retomber un peu depuis. Ce n'est pas encore un problème, mais c'est déjà un feu orange. On peut, certes, souvent à juste titre, déplorer les excès des marchés et les graves dérapages des agences de notation, les anticipations autoréalisatrices, comme on dit, la spéculation. Et il faut faire tout le possible pour corriger ces excès. Mais dans nos économies ouvertes et largement mondialisées, ignorer purement et simplement leurs signaux serait suicidaire. Faut-il alors suivre les néo-ricardiens? Pas davantage, car eux aussi ont à la fois raison et tort. Ils ont raison de penser que la dépense publique ne peut pas tout, et qu'elle devient même, à un certain stade, contre-productive. On voit souvent nos gouvernements craindre les effets restrictifs des compressions budgétaires en termes de perte d'emplois ou de moindre commandes publiques. Ont-ils songé, cependant, que chaque euro dépensé a d'abord dû, ou devra inévitablement à terme, sauf hyperinflation, être prélevé, et que l'effet dépressif net d'un euro prélevé est en général plus fort que l'effet expansif d'un euro dépensé. Les économistes libéraux ont sans doute aussi raison de craindre que la distribution abondante de liquidités par les banques centrales, nécessaire pour éviter un krach bancaire, ne nourrisse de nouvelles bulles inflationnistes. Sans doute davantage à travers les prix des actifs, immobiliers ou boursiers, ou ceux des matières premières, que directement à travers les prix à la consommation sur lesquels les importations à bas prix des pays émergents continueront à peser. Ce risque d'apparition de nouveaux excès spéculatifs sur certains segments de marché est bien réel. Certains pensent même que les nouvelles bulles sont déjà en train de se gonfler, sur l'immobilier ou sur certains pays émergents par exemple. En sens inverse, il faut donner tort à ces économistes néo- ou ultralibéraux sur deux points essentiels. Le premier est que la doctrine monétariste de Milton Friedman et de l'école de Chicago, qui inspire toujours certains, n'a en réalité jamais fonctionné. L'idée simpliste selon laquelle le niveau des prix dépendrait directement de la quantité de monnaie en circulation, assortie d'un mystérieux facteur vitesse de circulation qui ressemble fort à la vertu dormitive de l'opium caricaturée par nos philosophes, ne se vérifie tout simplement pas dans les faits. C'est ainsi que depuis la création de l'euro jusqu'à la crise de 2009, donc pendant 10 ans, la masse monétaire, M3 pour les spécialistes, a été constamment et largement supérieure aux objectifs fixés par la BCE, sans pour autant entraîner de dérapage des prix. On peut difficilement expliquer cette situation par un ralentissement constant de la vitesse de circulation de notre monnaie, mais elle s'explique beaucoup mieux par les importations à bas prix des pays émergents. La seconde erreur réside dans le fait que toutes les données économiques récentes semblent démentir la validité du principe d'équivalence néo-ricardienne. On voit bien, par exemple, que l'annonce un peu partout de plans de rigueur, qui devrait, selon la logique de cette thèse, ranimer la croissance en rassurant les acteurs de l'économie sur le fait que l'avenir est pris en main, a plutôt l'effet dépressif que redoutent les keynésiens. De fait, les anticipations semblent beaucoup plus largement influencées par des éléments psychologiques, d'où le succès d'une nouvelle école d'économistes comportementaux, comme Gary Becker, prix Nobel 1992, que par le jugement sur les perspectives futures de la dette publique et des impôts. Pour le moment, en tout cas, les sondages montrent que les mesures de rigueur récemment annoncées en France, mais non assumées dans le vocabulaire, il est vrai, n'ont pas réussi à ramener la confiance. Les économistes attribueront cette attitude soit à la myopie des décideurs, incomplètement informés ou hors d'état de tirer le parti logique des informations dont ils disposent, soit à l'absence d'altruisme intergénérationnel, c'est-à-dire de prise en compte suffisante des intérêts des générations futures. Absence d'altruisme qui se manifeste clairement sous nos yeux, tant à propos de l'environnement qu'à propos de la réforme des retraites. Il ne suffit donc pas, si nécessaire que ce soit, de restaurer progressivement un meilleur équilibre des finances publiques pour obtenir une relance spontanée du secteur privé. Mais d'un autre côté, les recettes de la relance par la dépense publique sont évidemment désormais à bout de souffle. Face à ce dilemme, on comprend les hésitations des gouvernants et la difficulté de l'opinion à sortir du marasme. Les théories économiques qui s'opposent sur les solutions à apporter ne permettent hélas pas d'y voir beaucoup plus clair. Au moins, peut-on penser que la façon, plus ou moins rapide, plus ou moins durable, dont nous sortirons de la crise, permettra à l'avenir de mieux les départager.